Salutations, mon nom est Sylvain Aubé et je nomme pour vous l'archivologiste dans lequel j'explore certains angles morts du métier d'archiviste ainsi que du monde des archives. Je suis aujourd'hui avec Luc Desjardins qui a été très impliqué dans l'épopée de la phonothèque québécoise, qui a surtout été active dans les années 90 et les années 2000 avant de disparaître. Nous allons donc refaire le parcours des gens qui l'ont bâti ainsi que des collections sonores qui s'y sont brièvement trouvées. Bonne écoute! On est au troisième épisode de l'Archivologiste, le podcast qui parle des angles morts des archives, Et oui, donc aujourd'hui, je suis avec Luc Desjardins. Bonjour Luc.
Bonjour Sylvain. Merci de l'invitation.
Ça fait très plaisir. Donc, dans l'épisode 3, aujourd'hui, on va parler de la phonothèque québécoise principalement.
Oui.
Et tu y étais, donc, on va beaucoup s'inspirer du livre « Le patrimoine sonore du Québec » de Réal La Rochelle.
Oui.
Sur le sujet, mais comme tu y étais, donc tu es un témoin de premier ordre. Donc, ben, Luc, merci de te présenter. Je t'invite à mentionner peut-être tes projets artistiques personnels et aussi tes et actuels aux besoins.
Oui, oui. Que dire? Ben, c'est ça, je suis un ancien chimiste. J'ai travaillé 15 ans dans l'industrie des adhésifs industriels pour ensuite me rediriger vers les archives et les bibliothèques, en fait, par le biais d'une maîtrise à l'Université McGill. Et entre les deux, ben, je faisais aussi des études cinématographiques à Concordia. Puis j'étudiais en particulier, c'était la musique au cinéma. Et puis à travers ça aussi, ben, j'étais un musicien et je le suis encore. J'ai joué dans des groupes de la scène underground montréalaise. J'en ai nommé quelques-uns, les Trois Caputins, Glop Glop en premier, les Trois Caputins et aussi les Lucières des Jarciers, puis les Wild Cherry, des groupes un peu moins connus, mais... Qui avec lequel j'ai quand même enregistré pas mal. Et puis, tout ça m'a amené à la phonothèque québécoise. En fait, en lisant un livre de Réal La Rochelle, Le cinéma en rouge et noir, puis à un moment donné, il y avait eu un colloque à l'Université de Montréal, puis j'étais allé. C'est là que j'ai rencontré Réal pour la première fois, puis j'ai fait part de mon intérêt, mon appréciation du livre. Puis de fil en aiguille, je suis devenu membre de la phonothèque, puis ensuite secrétaire du conseil d'administration, pour ensuite devenir président, on pourrait dire président fossoyeur maintenant, si Réal a été. Je dis souvent en blague que Réal, c'était le président fondateur, et moi le président fossoyeur. Mais bon, j'ai quand même participé à cette aventure-là pendant presque une vingtaine d'années. Et puis, si tu permets, j'aimerais quand même, comme la fin de la phonothèque s'est faite un peu dans l'anonymat, j'aimerais quand même en profiter pour remercier tous ceux qui ont été impliqués dans cette aventure-là, puis qui ont cru à un moment ou à un autre de l'existence de l'organisme. Donc, je nommerai pas tout le monde, naturellement, parce que j'en oublierai, ma mémoire est vraiment défaillante pour les noms, mais je vais au moins nommer tous les membres. Remercier tous les membres fondateurs, les membres du conseil d'administration, des différents comités de la phonothèque à travers les âges, les conférenciers qu'on a invités, les chercheurs qui sont passés par la phono, les chargés de projet, les stagiaires, les employés, entre guillemets, puis aussi, ben, je vais quand même nommer Christian Lewis, qui a été directeur, puis mon complice jusqu'à son départ, en 2005, je crois. Et ensuite, j'ai été épaulé pas mal par Mario Gauthier pour tout le travail de relocalisation des archives et des collections de la phonothèque. Alors, je remercie tous ces gens-là du fond du cœur d'avoir cru à cette aventure-là.
Oui, et c'est important de les nommer, effectivement, parce que bon... avec le recul, on se rend compte qu'on ne connaît peut-être pas aussi bien la phonothèque québécoise qu'on devrait. Il y a aussi pour le grand public une confusion. Donc, il y a une phonothèque de la ville de Montréal aussi où on allait emprunter des disques. Donc, il y avait ces deux phonothèques-là. Mais donc, moi aussi, j'ai redécouvert beaucoup de détails. Donc, si tu permets, je fais pour le public un bref survol. Donc, l'idée de Phonothèque a mijoté depuis 1989 et il y a eu donc un premier financement, un premier accès au financement en 1992. On avait Edgar Fruitier comme président d'honneur à l'époque, comme figure publique. Donc, il y a eu un déménagement dans les locaux de la Cinémathèque en 1993 avec la complicité de Robert Daudelin. Et Christian Louis, que tu mentionnes, directeur général à partir de 1998, président du CA toi-même à partir de 2001. Et donc, vous avez été le sujet du livre « Patrimoine sonore du Québec », le livre donc, qui a été écrit en 2009. Et malheureusement, donc c'est 2012. Donc essentiellement, la phonothèque qui a existé entre 1989 et 2012. Donc oui, déjà plus d'une dizaine d'années. Donc est-ce que c'est un bon survol? Est-ce qu'il y a des grands moments qu'on oublie?
Ben, c'est bien, mais oui. Il y a quelques petites choses que j'aimerais quand même souligner, autre que ce que tu viens de mentionner. Le livre, c'était pour le 20e anniversaire, en fait. Puis tu vois, la dernière subvention d'aide au fonctionnement, c'était en 2010. Précisément le 19 janvier 2010. Puis là, en novembre 2011, on a déménagé des locaux de la Cinémathèque québécoise pour aménager dans un petit entrepôt public pour entreposer les collections. Puis, donc, de 2013 à 2024, bien, il y a eu tout le travail de relocalisation dont je vais parler tantôt. Mais entre, disons, 92 et, ou 89 même et 2005, là, disons, il y a eu plusieurs projets de recherche, plusieurs réalisations qui sont sur le site Internet. D'ailleurs, le site Internet, c'en est une réalisation de la phonothèque.
On peut le mentionner.
Ah, ben maintenant, il est hébergé par BANQ, en fait. Alors, on va, on tape BANQ, site Internet. Puis là, on peut taper Phonothèque dans la boîte de recherche. Puis ça nous amène directement sur une version archivée du site.
OK, parfait.
Donc là, on peut trouver les recherches, les inventaires qu'on a fait. Une recherche, une étude sur la radio anglophone au Québec en 99. Je vais te les dire rapidement. Là, 75 ans de radio en 98. Des entrevues sur le patrimoine sonore au Québec en 2002. Une recherche sur les radios communautaires à Montréal 2003, à la suite des travaux sur les maisons de disques indépendantes et puis les studios d'enregistrement à Montréal. Ça, c'est sur le site. En plus d'autres projets qui ont été réalisés avant, mais qu'on n'avait pas pu encore numériser pour les diffuser. Il y a eu le premier projet de la Phonothèque, ça a été un inventaire des collections personnelles d'archives sonores au Québec en 90. Puis ensuite, des travaux, une étude du bâtiment Berliner RCA Victor en 91, puis une histoire orale des opérations phonographiques du studio RCA Victor en 92. Sans compter les nombreuses expositions qu'on a réalisées et les causeries ou les conférences qu'on a animées. Là, je ne te nommerai pas tout, là, mais il y en a énormément. Puis il y en a beaucoup qui ont été enregistrées, soit sur... soit en audio ou soit en vidéo, et puis qui sont dans le fonds d'archives institutionnelles de la phonothèque.
Donc, énormément de contenu et du contenu qui est disponible, donc qui est toujours disponible.
Oui, sous un look un peu vieillot, là, un peu dépassé, mais en même temps, qui est encore très actuel de par sa richesse de contenu, justement.
C'est-à-dire les entrevues, les vidéos
demain. Oui, des extraits des entrevues plutôt que les entrevues complètes. Mais
Et puis, est-ce que c'était phonothèque.qc.ca?
Oui, il me semble que oui. .org.
Phonothèque.org. Puis ouais. dans le Internet Archive, donc là, dans le Wayback Machine. Donc on peut le voir dans le contexte original.
Oui.
Excellent. Donc je regarde. Donc il y a eu énormément de contenu qui a transité par la phonothèque. Donc, je regardais les statistiques mentionnées dans le livre. Donc, on parle de 12 000 notices au niveau du catalogue, 90 collections, 2 500 heures en audiovisuel, 7 000 heures au niveau sonore, 20 mètres linéaires de dossiers de presse, 1 200 documents numérisés, dont 800 en ligne, 850 en ligne. Et grosso modo, donc environ 15 000 documents, donc c'était énorme. Donc on parle de monographies périodiques, des dossiers, des microfilms, des partitions, etc., etc., donc même des T-shirts. Et peut-être une première question d'un point de vue du grand public, donc où est rendue toute cette collection?
Oui, ben tu sais, tu parlais des notices cataloguées. Sur le site qui a été archivé maintenant de manière pérenne par BANQ, le catalogue n'est pas là, n'est pas accessible, par exemple, parce que BANQ a comme politique de ne pas archiver des catalogues ou des inventaires d'institutions. Mais quand même, tu vas retrouver un index des collections avec un résumé du contenu. Alors, où cela est-il rendu? Ben, ça, c'est tout le travail des 10 dernières années qui a été fait, ou 12 ou 13 années. Il faut dire que je dis toujours cinémathèque parce que là, présentement, je travaille à la cinémathèque et que la phonothèque a été pas mal conçue sur le modèle de la cinémathèque, en fait. Puis il y avait des membres, des employés de la cinémathèque qui étaient membres de la phonothèque.
Il y avait une cohabitation physique, donc vous étiez, la phonothèque était dans les locaux de la cinémathèque.
Oui, probablement à cause de Réal, tu sais, qui était critique de cinéma, prof de cinéma, puis très proche de la cinémathèque aussi. Fait que ces deux institutions qui étaient un peu sœurs là, à l'époque. Alors, on parle de beaucoup de contenu, mais en fait, moi, je vois plutôt rétrospectivement un centre de documentation sur le son. Alors, on avait peu de fonds d'archives comme tels. On en avait quelques-uns. Je vais te dire où est-ce qu'ils sont rendus. Le fonds René Legris, Pierre Pagé sur la radio, les radioromans, tout ça. C'était le fonds important de la Cinémathèque. Alors, ça, c'est rendu aux archives de BANQ. Ça a été accepté sans problème. C'est rendu ici. Il y avait un fonds de cassettes d'archives sonores des Oblats. Ça a été retourné au centre d'archives des Châtelets NDC, sans problème non plus. Ils ont été contents, en fait, de maintenant accueillir ce fonds-là, qui, à l'époque, était orphelin. Et puis, il y avait aussi le fonds du sonographe, qui était un pendant du vidéographe, en fait. C'était le pendant sonore du vidéographe. Alors ça a été... Et aussi un autre fonds d'archives individuelles, personnelles, de Joseph Champagne, qui était un ingénieur de son à l'ONF. Ça s'est rendu à l'Université de Montréal, au labo Création sonore. Alors, tu vois, je dirais, au début de la phonothèque, ça a été fondé par des chercheurs, en fait, en 89... Des chercheurs, René Legris, Pierre Pagé, Réal, La Rochelle et d'autres, qui s'apercevaient que pour leur recherche, il n'y avait pas accès à la matière première dont il y aurait besoin. Alors, c'est parti comme ça. C'est pour ça qu'on a quelques fonds d'archives comme ça. Puis, à l'époque, ben je crois pas me tromper en disant que les sound studies n'existaient pas vraiment en termes de domaine d'études formalisé dans des universités. Il y avait le Film Studies, qui datait plutôt des années 60-70. Puis là, ben, on a des programmes d'études, de maîtrise et même de doctorat en études cinématographiques. Mais en Sound Studies, en études sonores, il n'y en avait pas à l'époque. Ça a plutôt commencé vers 2003-2005, je dirais. Plutôt les années 2000. Alors, la phonothèque s'est développée un peu comme ça, en voulant remédier à des lacunes des matières premières pour les chercheurs. Alors, comme je te disais, je reviens à ce qui a été relocalisé, les fonds d'archives. Ensuite, on avait des artefacts, des systèmes de son, des radios. Notre idée, ça avait toujours été de constituer des parcours historiques, c'est plusieurs décennies, mais avec des exemples ou un échantillonnage d'appareils. Alors, on en avait quand même quelques-uns de très intéressants. Donc, il y en a qui ont été légués à BANQ, à la Grande Bibliothèque. On peut les retrouver au quatrième. Il y en a qui ont été refilés à l'Université McGill, à la Bibliothèque de musique. Ils étaient intéressés par certains artefacts. Le Musée des ondes berlinaires aussi. Et puis la Cinémathèque québécoise également. parce qu'on avait quelques artefacts sur le son au cinéma. Ensuite, tu avais les archives radiophoniques. Alors là, on avait des archives de Radio-Canada, parce qu'à l'époque, effectivement, le département des archives de Radio-Canada, il y avait eu un partenariat qui avait été développé avec la Phonothèque pour qu'on soit dépositaire d'une deuxième copie, d'une copie de valorisation ou d'écoute des radiothéâtres. Alors, on avait à peu près 200 RDAT de radiothéâtre de Radio-Canada que les gens pouvaient venir écouter à Radio-Canada, à la Phonothèque, parce que ce n'était pas accessible à l'époque aux archives.
Parce que RDAT, comme format, c'est un...
Petite cassette numérique qui vieillissent très mal, d'ailleurs.
Ils sont numérisés?
Sont numérisés maintenant, oui. Fait que, il y avait aussi des archives radio qui ont été offertes à l'Université Concordia. Là, après ça, pour le gros de ce qui prenait le plus de place, là, c'est les disques vinyles. Alors, tout ce qui est contenu québécois ou relatif au Québec, ça a été offert à BANQ. On avait la collection de la délégation du Québec à Paris. Et on en avait d'autres aussi, des petites collections qui avaient été acceptées sur le tard, mais on ne pourrait pas dire des collections patrimoniales comme telles, mais qu'on avait acceptées parce que, disons que la politique de sélection, ça a pris un certain temps avant d'être peaufinée. Puis, un peu comme tous les centres d'archives, même la Cinémathèque, c'est la même chose. On se retrouve avec des choses que maintenant, on n'accepterait peut-être pas, mais là, on les traite. Alors, de ces disques-là, contenu québécois relatif au Québec, ça a été accepté par BANQ. Des choses, des perles là-dedans, des disques de plumes, des éditions françaises, des choses comme ça, des raretés. L'Université McGill, la bibliothèque de musique, a accepté quelques collections importantes, comme celle-là de disques de jazz de Robert Daudelin et puis de Michel Descaries. Alors, c'est pas des collections très imposantes. Daudelin, je pense que c'était à peu près 2010 quand même. Et puis Michel Descaries, c'était un très grand collectionneur de jazz montréalais. Puis ce qu'on avait à la Phonothèque, c'était un échantillon de sa collection qui avait été sélectionné par son ami et artiste visuel Raymond Gervais.
Est-ce que, par ailleurs, Réal La Rochelle avait une collection de musique classique? Je ne sais pas si ça s'ajoute.
Oui, ça s'ajoute, effectivement. Ça a été pris par le laboratoire Création sonore de l'Université de Montréal. Parce que, en fait, c'était logique de qu'ils acceptent ça. En même temps que toute la documentation que Réal avait accumulée aussi sur le son au cinéma, la radio, ça faisait partie d'un peu d'une collection spéciale de Réal qui a été léguée au Labo Création Sonore. Tu vois, McGill, ils ont aussi pris Robert Daudelin et Raymond Gervais avaient aussi des revues sur le jazz. Des numéros assez rares, des vieilles revues des années 50-60. Et ça, McGill l'a pris aussi parce que c'était en accord avec, dans le fond, les collections de vinyles qui étaient léguées. Puis une autre collection aussi intéressante que la bibliothèque de l'Université McGill a pris, c'est la collection de disques de musique contemporaine de Marie-Vonne Kendergian, qui a animé des émissions à Radio-Canada puis qui était musicologue. Alors, c'était vraiment des collections intéressantes, je trouvais. Là. En termes de... Tu vois, il y a aussi celle-là de Charles Gagnon, qui était un artiste peintre. Et donc, lui, il y avait à peu près 2010, je crois. Puis Raymond Gervais, qui était son ami aussi, en a extrait un échantillon d'à peu près 400. Et puis ça, c'est le laboratoire création sonore de l'Université de Montréal qui l'a. Il y a d'ailleurs eu une journée d'études autour de cette collection qui a été faite il y a quelques années. Et puis, ce qui était intéressant, c'est en termes de pochette de disques. Parce qu'on avait l'œil d'un peintre, puis en plus, son ami qui était artiste visuel qui a fait une distillation de cette collection-là, puis c'était fantastique là, en termes de pochette.
Exposition visuelle, oui. De pochette de disques.
Oui. Puis les livres et les périodiques, ben, comme je te disais, les périodiques de jazz, ça a été l'Université McGill. Et puis les livres techniques qu'on a eus par deux ingénieurs de son de l'ONF, ben ça, c'est au laboratoire création sonore. Fait que des livres de la SMPTE, là, des revues très pointues sur les...
En audio, en technique audio,
là, vraiment. Les dossiers de presse, surtout, en fait, ceux relatifs aux expositions sur le relatives au son au Québec, on avait deux boîtes, pas un gros fond, mais ça, tu vois, c'est Artex qui les ont. Et alors, ben, dans les remerciements que j'ai faits au départ, là, j'aimerais le réitérer, mais toutes ces institutions-là qui ont accepté de prendre des collections et des fonds de la phonothèque, ben, il y a des gens derrière ces institutions-là, puis ils ont été très complices avec moi, puis... et Mario, puis ils nous ont vraiment facilité la tâche, puis ils ont été vraiment... ils nous ont épaulés dans tout ce travail de...
Un peu, redistribution.
Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, bon, là, tu dis ça c'est beau, mais ça fait pas beaucoup. Bien, il y a quand même une centaine de boîtes de disques, il faut l'avouer, qui a été, après ça, à l'Armée du Salut. Pourquoi? Bon, alors... Premièrement, il y a certaines grosses collections de musique classique, surtout, qu'on avait acceptées au départ, peut-être avant qu'on ait des politiques de sélection plus strictes. Alors, c'est parti.
Je peux rappeler en passant qu'il y a eu énormément de dons du public. Une fois que la phonothèque était connue, donc il y a commencé à avoir des dons du grand public. Donc, il y a plusieurs... On livrait des boîtes à vos
oui,
portes.
Oui, c'est ça, donc, c'est ça. Alors,
c'est peut-être dans ce contexte-là, quoi,
oui,
à la
c'est
fin,
ça, c'est ça.
Il est resté...
Tu sais, il y avait quand même la collection numéro 1, je crois, ou la 2. C'était un professeur de musique en Abitibi dans les années 40-50. Collection assez imposante, puis intéressante, en fait... comme illustration de qu'est-ce qu'on écoutait, puis qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme matériel éducatif ou didactique à cette époque. On a essayé tant bien que mal de la relocaliser, puis non, personne n'était intéressé. Alors, ça a pris le bord de l'Armée du Salut. Par contre, on a un inventaire. Alors ça, j'y reviendrai tantôt, mais avec un inventaire, on peut quand même étudier une collection.
Et donc là, je comprends deux choses. C'est qu'il y a énormément de travail qui a été fait après la fermeture, en
oui.
2012 des locaux
oui.
au public, mais par la suite, tu as continué
oui.
une dizaine d'années, douzaine
oui.
d'années. Donc,
c'est ça.
Là-dedans. L'autre point, je passe au dossier BNQ, ça sent
oui.
toi bien à l'aise. Donc, le contexte général que je peux donner au public, donc, c'est qu'au départ, il y a des chercheurs, donc il y a des fonds qui sont éparpillés un peu partout. Vous avez réussi à réunir énormément de matériel et on voit donc avec ton énumération que ça a été redistribué. Puis,
même à
mais,
BNQ.
Ouais, puis donc, mais par contre, une institution comme la Phonothèque cherchait un ancrage aussi permanent, donc de devenir une institution. Ça aurait pu être jumelé avec la Cinémathèque théoriquement dans les mêmes locaux. Il y a un partenariat naturel avec la BNQ, mais on voit dans le livre de Réal, La Rochelle, que ça a été tout un parcours de combattants. Et finalement, donc la BNQ n'a pas... Il n'y a pas eu ce mariage-là entre la Phonothèque et la BNQ, donc... Réal La Rochelle, elle l'explique très bien dans son livre, mais si tu veux peut-être nous donner ton approche, je veux
oui.
peut-être mentionner quelques dates. Donc, dès le départ de 89, il y avait un dialogue avec la bibliothèque,
oui.
Qui était à l'époque BNQ et
oui.
Archives Québec. C'est Archives
Québec. Nationales du Québec.
Donc, deux institutions séparées qui ont été jumelées pour devenir BNQ.
Oui.
Donc, il y a Lise Bissonnette qui est devenue directrice, il y a eu des négociations, mais finalement... Dès 2003, on voyait que ça n'allait pas arriver. Et depuis 2009. Donc, il y a des disques qui sont visibles ici à la BNQ, derrière des vitres, ou réservés aux chercheurs, donc non disponibles au grand public. Donc, ça, c'est un peu le background du dossier, mais je serais intéressé d'entendre ton...
En fait, peut-être qu'il y a eu une certaine méprise peut-être une erreur de la part de la phonothèque de confondre Lise Bissonnette, directrice du devoir, et Lise Bissonnette, directrice de BANQ. C'est deux personnes différentes, deux mandats différents. Alors, dans ses articles pré-grande bibliothèque, Lise Bissonnette était très enthousiaste était très complice avec la phonothèque, mais comme directrice d'une grande institution, c'est une autre affaire, en fait. Alors, c'est une question, moi je dirais, ça a chopé un peu sur la question de que BANQ voulait garder le contrôle. Pour éviter des problèmes de gestion, la volonté de BANQ allait dans le sens d'un contrôle puis d'une unité de gestion. On nous disait que ça serait trop coûteux d'accueillir la phonothèque en son sein. Et aussi, il y avait le problème avec toutes les grandes institutions, c'est qu'on ne veut pas créer de précédent. Alors, si on le fait avec la phonothèque, ben, on s'imagine qu'il y a des dizaines d'autres organismes qui vont venir cogner à la porte pour demander la même chose. Alors, l'unité de gestion à BANQ était essentielle, probablement avec aussi des problèmes sous-jacents avec le syndicat, les syndicats. Et je crois aussi qu'il y avait le fait qu'à la phonothèque, ben, on était tous à l'époque des amateurs éclairés, mais des amateurs quand même. Alors, on n'était pas des bibliothécaires ou des archivistes, pas encore. Puis, il y avait aussi le fait que je crois qu'il y avait une incompréhension ou un semblant d'incompréhension des organismes, à la fois subventionnaires et de BANQ, de penser que la phonothèque, qu'on avait un mandat trop large pour l'étroitesse de nos budgets. Fait qu'on disait qu'on avait des immenses collections de contenu international, ce qui est pas le cas, en fait. Alors, pour tout ça, ça a pas marché.
Et c'est dommage parce que ça a mené à la dispersion aussi de la collection de l'équipe.
Parce que je te fais un résumé là, suite à cette rencontre-là. C'était ça l'idée. Ils nous considéraient comme un peu des illuminés avec nos collections à contenu international que personne n'a le mandat de conserver. Ils voulaient garder le contrôle. Puis, ben, des problèmes opérationnels avec le syndicat. Puis en même temps, il faut penser qu'on était en 2003, la Grande Bibliothèque a ouvert en 2005. Écoute, il y avait d'autres chats à fouetter, je pense, qu'un partenariat avec la phonothèque.
Oui, qui était un peu trop autonome pour son propre goût, avec son équipe.
Puis tu sais, amarrer les politiques de sélection, puis tout ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Puis je pense qu'il y avait d'autres chats à fouetter, là, vraiment.
Puis malheureusement, la phonothèque n'a pas survécu par elle-même non plus, donc c'est ça, c'est là que...
Ouais. Mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, il faut le dire. Tous les centres d'archives régionaux ont de la misère. Il y avait des projets de musée de la radio à Sorel-Tracy. Ça n'a pas marché non plus. C'est un peu le lot des petits centres.
Oui, le parcours du combattant.
Ouais,
de la culture. Oui,
ouais, c'est ça.
Mais donc, on disait que la collection était dispersée, mais quand même, il y a des choses qui sont restées. Je pense par exemple aux compilations, donc tout le travail intellectuel qui a été fait. Il y avait aussi un côté artistique au niveau de compilations, donc de CD qui étaient disponibles au magasin, sur le marché, au magasin de disques. Donc, si tu veux nous en parler un peu, peut-être des
principaux. Oui, l'idée, c'était de donner une forme à chacun de nos points d'intérêt. Alors, il y a d'abord eu un coffret sur les disques de la Bolduc. Ça vient d'un manque à l'époque. C'était pour souligner la difficulté d'avoir accès aux archives sonores du Québec. Il n'y avait pas de dépôt légal sur les enregistrements sonores à l'époque. C'est seulement arrivé en 1995. Alors, c'était cette volonté-là d'illustrer le fait que ben, c'était un domaine de recherche important. Puis, par un exemple emblématique.
Donc, par exemple, les disques étaient pas de la Bolduc n'étaient pas disponibles commercialement. Donc, vous avez compilé, vous avez
c'est ça.
Collectionné, vous avez compilé et rendu accessible. En fait,
on a fait affaire avec des collectionneurs. Alors, on n'avait pas de disques de la Bolduc à la phonothèque, mais on a rassemblé des collectionneurs, puis un collectionneur en particulier, pour faire ce coffret-là. Ensuite, il y a eu le coffret sur Maurice Blackburn, créateur sonore, compositeur, entre autres, des musiques de Norman McLaren. Et puis, encore là, pour souligner l'importance d'étudier et de conserver l'aspect sonore du cinéma. Jazz, les folles nuits du jazz à Montréal, c'était pour souligner une exposition qui a eu lieu à Montréal. Puis tu mentionnes dans ton texte Calas, la Diva et le Vinyle, ben ça c'est un projet indépendant, mais un peu parallèle ou cousin à la phonothèque. Puis aussi tout ce qui est archives radiophoniques, on n'a pas fait de CD, mais il y a beaucoup d'extraits sur le site. Alors, tu vois, c'est toujours un peu la duplicité là, des archives. Est-ce qu'on doit valoriser les archives ou seulement être un dépositaire puis des chercheurs viennent se servir du matériel conservé pour eux faire des projets? Tu sais, je te dirais que maintenant, il y a des petits labels qui font un peu qui continue ce travail-là, comme par exemple Trésor National avec les bandes sonores de films qui ont édité. Ben, c'est merveilleux, tu sais, ça, on aurait aimé ça faire ça à la phonothèque. D'ailleurs, on avait édité une version d'X13,
oui.
En fait, pour aussi illustrer le volet musique de film. Alors, c'est ça, c'est à la hauteur des moyens, tu sais, c'est des projets qu'on développe,
Ouais, qui ont survécu.
Qui restent aussi
public.
Comme témoignage du passage de la phonothèque québécoise.
Parfait. Je mentionne pour l'anecdote aussi, donc j'ouvre une parenthèse pour dire que j'ai un autre podcast qui s'appelle Griche, sur griche.org, et j'ai eu la chance de faire des entrevues avec des musiciens, musiciennes en électroacoustique et en musique expérimentale. Et il y en a plusieurs en commun, donc j'en nomme quelques-uns. Hélène Prévost, Chantal Dumas, Yves Daou, donc de votre côté, vous aviez aussi fait des entrevues de fond avec avec beaucoup de personnes. Donc, est-ce qu'ils sont encore accessibles?
Bien, spécifiquement sur les créateurs sonores, c'est maintenant le site du laboratoire Création sonore de l'université qui héberge ces entrevues. Et puis, les entrevues intégrales sont sur date aussi dans le fonds d'archives institutionnelles de la phonothèque qui est à BANQ. Okay.
Donc, on pourra...
Fait que, tu sais, oui, c'était un autre de nos intérêts communs, là. Puis ton initiative était très intéressante, t'sais. On aurait aimé travailler avec toi à l'époque.
Merveilleux, oui. Dans un espace-temps. Mais justement, oui. parlant de culture fiction, donc, si la phonothèque avait survécu, donc elle aurait 35 ans maintenant. Et quelle aurait été ta vision actuelle pour une phonothèque d'aujourd'hui?
C'est une question difficile. Tu sais, le chapitre 16 du livre s'intitule « Utopie ou nécessité ». Alors, à l'époque, tu t'aurais répondu « nécessité ». Maintenant, je dirais plutôt « utopie ». Comme je te disais, en 89, ça a été fondé par des chercheurs qui constataient des lacunes leurs matières premières. Maintenant, je pense que les institutions ont évolué aussi avec le dépôt légal sur les enregistrements sonores à Radio-Canada, au service médiathèque et archives. Il y a eu un très gros travail de numérisation et de catalogage, d'indexation des archives radio qui se faisait pas tant que ça à l'époque. Puis un travail, pas juste sur les archives courantes, mais aussi un travail rétrospectif sur les archives patrimoniales. Donc, des émissions des années 50 sur disques de transcription 16 pouces, des enregistrements d'émissions des années 60, des émissions montées, mais aussi du matériel non monté. Donc, un élargissement vraiment de l'idée de qu'est-ce que c'est des archives radiophoniques du radiodiffuseur public. Donc, je dirais que la phonothèque a joué aussi un rôle de passeur. En fait, qu'on jouait à cette époque-là. Je vais te donner peut-être deux exemples. La collection de Claude de disques, pas juste de disques, en fait, de partitions, de revues, de livres de Claude Gingras, critique de musique classique à la presse. Bon, ben, elle a été acceptée par l'Université de Montréal, la Bibliothèque de musique, mais à cause d'un don de 3 millions de Jacqueline Desmarais, parce que sinon, il n'aurait pas pu l'accepter, parce qu'il n'aurait pas pu le traiter, il n'aurait pas pu le mettre en valeur. Tu vois, cette collection-là aurait pu être offerte à la phonothèque, mais nous non plus, on n'aurait jamais pu l'accepter. Donc, on s'envisageait comme un rôle de passeur. Donc, on a des connaissances de tous les centres d'archives et les institutions et les collections, les fonds au Québec. Quand quelque chose arrivait à la phonothèque, ben si on pouvait le refiler à une autre institution qui était plus en mesure de mieux le conserver que nous, on l'envisageait. Puis tu vois, ce travail-là, on n'avait jamais le temps de le faire du vivant de la phonothèque, alors ça a été fait après, parce que, faute de moyens, là, t'sais, on n'avait pas le temps de traiter les... On avait des politiques de sélection, on analysait des scénarios possibles, mais on n'avait pas le temps de le faire. Alors, quand ça a fermé, ben là, on s'est retrouvé avec le stock, puis là, on a pris le temps de le faire, dans le fond, ça, tu vois, puis ça s'est étalé sur une dizaine d'années quand même. À temps perdu, on pourrait dire, à temps partiel, mais quand même. Je te donne un autre exemple de collection qui, celle-là, n'a pas été encore archivée ou acceptée par une institution. C'est celle-là de Martin Tétrault, un platiniste qui travaille, un musicien qui travaille avec des disques. Alors, sa collection, il y a du contenu québécois, il y a du contenu international, c'est un outil de travail. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle institution va accueillir la collection de Martin Tétrault? Je le sais pas. Ça reste à voir. T'sais.
Et je fais une transition sur un autre sujet. Donc, peut-être au niveau de la radio, on en avait abordé peut-être une question plus philosophique. Là, pourquoi un médium comme la radio, qui est ancré dans le moment présent, mérite-t-elle d'être conservé? Donc, pourquoi est-ce qu'elle mérite d'être conservée comme les autres éléments audio?
Oui, ben écoute, c'est une question bien intéressante. Je vais d'abord te lancer vers deux sources qui sont vraiment très, très à propos sur le sujet. Il y a un article de la revue Archives, volume 51, numéro 1, 2023, intitulé « L'agir archivistique par en bas, le projet Autre archive, autre histoire, les archives d'en bas en France et au Québec ». Un article collectif, Simon-Olivier Gagnon, Jean-Philippe Legoix, Anaël Winant et Yvon Lemay, qui est disponible sur le site d'Érudit, où il y a un paragraphe, il y a justement une section sur les archives radiophoniques. Alors, je te lis le paragraphe parce que ça résume vraiment la situation au Québec.
Oui, excellent.
Alors, je cite, « Au Québec, hormis les archives de Radio-Canada, les archives de folklore, d'ethnologie de l'Université Laval et quelques fonds de radio privés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ainsi qu'à Bibliothèque et Archives Canada, la seule expérience d'envergure de conservation d'archives sonores et radiophoniques a été l'initiative de la Phonothèque québécoise Musée du son. Entre 1989 et 2006, cet organisme s'est voué à sauvegarder, documenter et diffuser le patrimoine sonore québécois. Depuis sa disparition, il n'y a plus d'efforts concertés pour assurer la conservation, la valorisation ou ne serait-ce qu'un inventaire sommaire des archives radiophoniques québécoises. Alors, c'est là qu'on en est au Québec. Alors, pourquoi la radio, c'est important d'être conservée? Je lance aussi une piste vers le livre de Pierre Pagé, Histoire de la radio au Québec, Information, éducation et culture, paru en 2007, qui fait pas mal le tour de la question. Puis à la lecture de ce livre-là, bien, on comprend que la radio a été très importante dans l'histoire du Québec. Donc, on a une idée du pourquoi de la conserver. Puis également, moi, je te dirais, personnellement, je trouve que la radio, c'est comme la chronique de José Blanchette du vendredi du Devoir, le Zeitgeist. Ben, la radio, c'est un peu ça. C'est un esprit du temps. C'est un médium léger, à la fois pour la captation et la diffusion. C'est pas quelque chose qui est dispendieux. C'est moins dispendieux que la télé. Alors, ça permet d'être plus rapidement sur place, de faire des choses plus peut-être plus échevelées, de tenter des expériences. Alors, moi, je ne sais pas comment on pourrait faire ça au Québec. Je n'ai pas d'idée là-dessus, mais il nous manque quelque chose comme l'INA en France, l'Institut national de l'audiovisuel, où là, à la fois la télé et la radio sont conservées. Fait que comment faire ça alors que, comme l'article le citait, c'est un médium un petit peu diversifié parce qu'on a la radio publique à Radio-Canada qui est gérée par le service dont les archives sont gérées par le service médiathèque et archives. Il y a les radios privées, les radios communautaires, les radios étudiantes. Alors, comme il n'y a pas de dépôt légal, il y a quelques fonds à BANQ et à BAC, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent des initiatives individuelles qui vont faire qu'on va conserver des archives radiophoniques. Puis pourtant, il y a des choses très, très intéressantes. Moi, je vais te donner juste des exemples que je trouve qui vaudraient la peine d'être conservés. J'écoute CISM, par exemple. Il y a une émission qui s'appelle « Qu'est-ce qui se trame sur les bandes sonores de musique en cinéma, télé et jeux vidéo ?» Une émission de très bon calibre, tu sais, puis moi, je pense que ça devrait être conservé. Radio-Canada, bien sûr, ils ont fait un gros effort avec le projet de numérisation, mais c'est peut-être par rapport à l'ouverture puis la disponibilité du fonds que c'est plus difficile. Hein. Bibliothèque et Archives Canada, ils ont un fonds CKAC, il y a un fonds CFCF, 5 CIMFM, mais il n'y a rien de systématique là.
Et puis, est-ce que ce qui a été recueilli à la Phonothèque québécoise est toujours accessible? Ou est-ce,
ben,
est-ce
que c'est... Oui, comme j'en avais parlé précédemment, il y en avait beaucoup dans le fond, le gris pagé. Puis, il y avait aussi... ça, j'en ai pas parlé la dernière fois, j'en profite pour le faire. On avait également une petite collection de à peu près 3 boîtes, donc 150 disques, d'archives radiophoniques sur disque. Des disques édités, pas des disques de transcription, mais quand même, aux États-Unis, il y avait beaucoup de... quand même des initiatives d'archiver les émissions sur disque. Fait que ça, c'est rendu à l'UQAM, dans un laboratoire qui commençait à développer un centre de documentation, mais j'oublie le nom m'échappe actuellement, mais c'est l'UQAM qui a accepté cette petite collection spéciale-là. Puis, tu sais, je m'en voudrais de pas mentionner un film, Radio Days, de Woody Allen, où on voit, tu sais, on le voit tout de suite, l'importance de la radio dans les années 50. Puis, ben, c'est quelque chose qui date de 1920-22 à peu près, la radio. C'est devenu un média de masse au Québec vers les années 1938-1939. La télé a commencé en 52. Alors, il y a un 30 ans, là, de matériel sonore. L'autre chose aussi, je te dirais, c'est que c'est quelque chose qui était intéressant en temps de crise. En temps de guerre, on parle de la crise du verglas.
Surtout, oui, la crise du verglas, ouais. Effectivement.
Il y a des archives radiophoniques très intéressantes là-dessus à Radio-Canada. C'est un médium de proximité, je l'ai dit, c'est un médium plus ancien que la télé. Puis, ça a été aussi au Québec un outil d'éducation, parce qu'il y avait des émissions éducatives comme Radio Collège ou même des émissions universitaires qui étaient diffusées à la radio. Fait que ça, c'est bien intéressant, sans parler des radios romans, là, où il y a des ouvrages qui sont dédiés à cette pratique-là. Alors, c'est ça, moi, je rêverais d'un dépôt légal sur les archives sonores de la radio. Puis, quoi dire? Aussi, je dirais qu'il faut faire attention ces temps-ci de ne pas mélanger la radio avec l'audio en général. C'est un médium très spécifique. L'audio, ben, tu peux avoir du son de la télé, tu peux avoir du son au cinéma qui peut être extrait puis juste diffusé en termes de son. Mais la radio, c'est quelque chose de plus ciblé. Puis, je lancerai un appel également aux chercheurs d'avoir la puce à l'oreille puis de ne pas hésiter de contacter le service des archives de Radio-Canada pour fouiller dans les archives radio. On oublie souvent qu'il y a eu quelque chose qui s'appelait la chaîne culturelle à l'époque. Mm-hmm. Puis il y a eu énormément d'émissions ou thématiques et aussi des entrevues de fond qui ont été réalisées dans les années 60, 70, 80. Faut pas négliger ce patrimoine sonore-là puis cette documentation-là.
Donc, c'est accessible sur demande aux
archives de Radio-Canada. Oui, il faut contacter. Puis c'est surtout pour les étudiants de deuxième et troisième cycle, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est là pour les chercheurs. Puis aussi, ben, une autre preuve que c'est important et que c'est intéressant à conserver, c'est qu'il y a eu de nombreux livres qui ont été édités à partir de séries radiophoniques. Écoute, je t'en nommerai, je n'ai pas de notes, là, mais...
Est-ce que les Ploufs étaient... Une série radiophonique?
C'est plutôt des séries documentaires dont je veux parler. Un siècle en pièces, par exemple, de Robert Lévesque, qui a été un livre, mais qui est parti d'une série radio. Également des livres de Serge Bouchard, Bernard Arcan, qui étaient des séries au départ, des séries documentaires, qui ont été éditées en livres. Pour faire une histoire courte, pour faire d'une longue histoire courte, je pense, Victor Lévy-Beaulieu puis Roger Lemelin. Encore là, une série radio qui a été édite en livre. Même chose avec Margaret Atwood. Fait que, tu sais, c'est vraiment richissime, je dirais, comme archives.
Et Serge Bouchard a une belle carrière en livre, mais aussi, donc, ouais, j'imagine que les archives, la voix de Serge Bouchard...
Ben, il en parlait justement dans Le Devoir le 20 avril 2024, 2026, à propos de Rêverie d'un routier solitaire, un film immersif. Tu vois, il disait, je dirais que le pouvoir de la radio tient à l'intimité de la voix. C'est-à-dire que son efficacité réside entièrement dans sa capacité de rejoindre le fort intérieur de chaque auditeur. Ça, ben, on le sent vraiment dans beaucoup d'émissions. Ne serait-ce que des lignes ouvertes.
Oui, pour l'histoire. Ouais. Et la balado-diffusion, oui. Va être par extension.
C'est ça. Maintenant, ça se transforme par la balado. Ce qu'il faut archiver aussi, là, dans le fond, il ne faut pas manquer le bateau avec la balado.
C'est vrai qu'il n'y a pas de dépôt légal pour la balado-diffusion.
Oui, oui.
Donc, oui, c'est une autre piste.
Oui.
Intéressant. Puis, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui, ben, peut-être... Donc, on voit que ça fait le tour un peu des questions. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, on a vu avec la phonothèque, donc le livre de La Rochelle, le patrimoine sonore du Québec, on rappelle. Et donc, merci beaucoup. Est-ce que t'es, donc, autre chose à ajouter? Est-ce qu'on avait un autre d'autres sujets qu'on pourrait couvrir?
Quand même, moi, je suis un ancien chimiste, puis je suis archiviste patenté, entre guillemets, depuis 15 ans. Alors, je ne suis pas un théoricien des archives, mais quand même, dans ces 15 dernières années-là, il y a quelques principes que je dirais que j'ai développés, mais que je trouve qui sont importants à souligner. Je dirais, donc, ça découle de mon expérience d'archiviste. à la fois archiviste pour le son à la radio, puis aussi pour le cinéma. Mais là, on va parler plus du son aujourd'hui. Je dirais que c'est important pour les archivistes d'avoir une ouverture d'esprit par rapport aux archives, parce que on a tendance à vouloir caser les choses dans des petites cases, puis ensuite d'inscrire ça dans des patterns, mais suivant des coulants qui découlent de politiques de sélection. Mais il faut penser aux utilisations archivistiques des archives aussi. Fait que faut avoir l'esprit ouvert par rapport aux fonds d'archives qui nous sont offerts.
Ouais, sur les diffusions futures et
oui, c'est ça.
Imprévues.
Oui, imprévues. Aussi, la question archives-bibliothèque. Archives inédites, puis documents publiés. Des fois, on est pris avec des choses qui tombent dans les failles ou dans les fentes du plancher. Les collections spéciales. Moi, j'ai un faible pour les collections spéciales parce que, justement, c'est spécial. Je vais te donner un exemple.
Est-ce que toutes les collections sont spéciales? C'est un grand débat.
mais je vais t'en donner un exemple, par exemple. La collection de disques de Martin Tétrault, le platiniste bien connu, qui est en fait, ce sont des disques publiés. Donc, ce ne sont pas des archives, mais en même temps, c'est son outil de travail en musique puis en art visuel également. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une collection comme ça? Ou les collections de livres, les bibliothèques d'écrivains? La collection de Victor Lévy-Beaulieu, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec sa bibliothèque personnelle? C'est des questions intéressantes, puis il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas être fermé d'avance à des questions comme ça, parce qu'il y a un principe que je trouve intéressant, c'est le principe d'échantillonnage. Alors, ça fait qu'on n'est pas obligé de tout garder d'une collection, mais dans le cas où on a un inventaire, on peut quand même étudier intellectuellement une collection, en garder un échantillon d'objets physiques pour leur exemplarité, par exemple. Alors là, on a le meilleur des deux mondes. On a à la fois quelque chose de physique qui est intéressant pour les chercheurs, mais aussi à valoriser pour le public. Puis on a un inventaire qui nous permet d'étudier scientifiquement la collection ou le fond.
Puis pour clarifier, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir des collections, par exemple, on parle d'un écrivain, la bibliothèque d'un écrivain, donc les 1000 livres qu'il possède, donc qui sont disponibles partout, mais qui rassemblés font, je ne sais pas si c'est un fond, un exemple de fond.
Probablement. Pas toutes les bibliothèques sont intéressantes à conserver, mais dans un cas comme celui que je mentionnais, qui m'est cher, en fait, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, Victor Lévy-Beaulieu, comme il a été à la fois éditeur, romancier, essayiste, puis la plupart de ses essais portent sur la littérature et des auteurs, ben là, je pense que oui, dans un cas comme ça, c'est justifié là, de le faire parce que...
C'était sa documentation.
Oui, c'est ça. Puis, écoute, un autre principe que je trouve important, c'est le principe de proximité. Alors, idéalement, conserver les archives près d'où est-ce qu'elles ont été créées.
Un exemple.
Ben, écoute, si on a des archives québécoises, les garder au Québec, puis pas les envoyer à Ottawa, par exemple. Bon, c'est d'abord pour la facilité d'accès. Puis, ou les archives régionales, par exemple... En France, les bibliothèques publiques, municipales, sont aussi des détentrices de fonds d'archives. Alors ça, c'est une piste vraiment à explorer aussi, mais bon, c'est la question des moyens, naturellement, là. Mais
on peut mentionner qu'il y a des archives régionales au Québec, donc oui. La BNQ a ses antennes,
c'est le
bon terme,
oui.
Pour conserver. Ouais,
oui, puis ça, c'est vraiment intéressant comme idée. Aussi l'idée de collaboration ou de partenariat entre grandes institutions et plus petits organismes. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on comprend que les grandes institutions ont des mandats. Ça demande des moyens, ça demande de l'équipement, des ressources humaines. Peut-être que les petits organismes peuvent venir compléter, mais en partenariat avec les gros, des espaces ou des sphères qui sont moins pertinentes pour les grands organismes ou qui n'ont pas le volume pour pouvoir le traiter. Puis, écoute, peut-être pour terminer, c'est un de mes dadas, là, l'importance aussi d'expliquer le travail des archives au public. Les contraintes du travail, les idées d'accès aussi, les questions, qu'est-ce qui limite l'accès aux archives, qu'est-ce qui fait qu'on n'accepte pas tout aux archives, comment on développe une politique de sélection, puis comment on s'y prend pour décider ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Souvent, les gens ont l'impression qu'on doit tout garder, mais si on gardait tout... En fait, ma blonde dit toujours, il y a trop de tout. Ben, si on gardait tout, ça n'a aucun sens. En fait, on serait submergé. Alors,
On ne s'en doute pas, mais le travail d'archive, il y a énormément, c'est beaucoup jeté. Donc,
oui.
Le travail d'archiviste, c'est prendre la décision de jeter.
Oui, qu'est-ce qui guide nos décisions d'élagage? Ce n'est pas des choses qui sont faites au hasard ou ça a fly. C'est des décisions qui sont prises... après discussion, basée sur des documents qui ont été rédigés de longue date, puis qui sont mis à jour fréquemment. Alors, ça, c'est vraiment important pour mes collègues archivistes, je trouve, de ne pas oublier la fonction explicative ou la fonction éducatrice qu'on devrait faire, je crois.
Parfait. Il y a autre chose à ajouter?
C'est
à
un
la
peu
fin.
Plaidoyer,
ça. Oui. Pour l'archivologiste, on ne pouvait pas mieux espérer comme synthèse ouais, pour donc des tendances et des principes, ouais, des principes
oui.
de base de l'archivistique. Puis c'est un peu ce qu'on voulait faire avec le podcast.
Oui,
ça
c'était vraiment une bonne idée de démystifier ce travail-là en interviewant des archivistes. Là, c'est vraiment, t'es en plein dans la fonction d'éducation,
de transmission,
de médiation.
Ouais, exactement. Ben, merci beaucoup, Luc. Donc, Luc Desjardins, donc on remercie énormément. Et donc c'était l'archivologiste avec l'épisode sur la phonothèque québécoise. Merci.
Merci.
Voilà, c'était Luc Desjardins qui nous a raconté l'histoire de la phonothèque québécoise. Vous trouverez plus d'informations en ligne sur notre site archivologiste.org. Et de notre côté, si vous avez des idées ou des suggestions pour notre balado, n'hésitez surtout pas à nous contacter. C'était Sylvain Aubé, l'archivologiste.